On est dans donc dans 1 Pierre. Est-ce que vous êtes déjà demandé que fait Dieu? Qu'est-ce qu'il prépare? Alors que nous allons regarder à cette section de 1 Pierre 2, ça nous permet de revenir un peu en arrière et de nous demander qu'est-ce que c'est que Dieu a à l'esprit? Comment est-ce qu'il bouge sur notre terre de nos jours? Quel est son plan? Parce que son plan est incroyable. Et son plan, c'est quelque chose qu'il veut que nous, il veut que nous soyons une partie intégrante de ce plan. Et pour comprendre ce qu'il fait, nous devons repartir en arrière dans le temps. C'est bon, là? J'ai l'impression que ça sort bizarrement. C'est bon? C'est mieux?
Ok.
Oui, moi je fais des bruits devant, mais c'est l'équipe de son qui doit faire en sorte que ça sonne bien. Et si vous écoutez en français, c'est celui qui traduit qui fait en sorte que ça sonne bien. En tout cas, je disais, il faut revenir en arrière pour comprendre les intentions de Dieu. Vous vous rappelez qu'au début, Dieu a tout créé. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi, tout d'un coup, il a créé tout? Il n'avait pas besoin de rien du tout, de quoi que ce soit. Il est parfait dans tous les détails. Tous les aspects de sa personnalité sont parfaits. Tous ses pouvoirs, son pouvoir est parfait. Alors pourquoi est-ce qu'il a créé tout ce qui existe? Une seule raison. Pour que tout cela lui rende gloire. Il y a des choses qui peuvent seulement être vues quand Dieu est à l'œuvre. Alors comment est-ce que Dieu montre sa grandeur et sa puissance? La création. La création infinie, qui est infinie à l'extérieur et qui est infinie dans la petite taille. Et quels sont les autres aspects de qui il est? Par exemple, son amour, sa grâce, sa justice. Sa miséricorde, il a créé les humains pour être l'objet de son amour, et de sa miséricorde et de sa justice. Et nous sommes rebellés contre lui. Et c'est pourquoi, un jour, nous allons faire face à sa justice. Mais Dieu est également miséricordieux. Donc il a décidé d'avoir de faire preuve de miséricorde. Et nous commençons, alors que nous lisons le livre de la Genèse, nous voyons comment son plan se déroule. Il appelle un homme du nom d'Abraham et lui dit: je vais transformer tes descendants en une nation, en tout un peuple. Et toutes les autres nations du monde seront bénis à travers toi, parce que je serai ton guide, je serai ton Dieu, je renseignerai à ton peuple ce que ça veut dire de m'avoir comme Dieu. Des centaines d'années sont passées. Les descendants d'Abraham se sont retrouvés en Égypte, en esclavage. Dieu a permis que Moïse se lève et les guide hors d'Égypte. La Pâque juive, la Passover, a été instituée quand ils ont quitté l'Égypte, au moment de l'Exode. Parce qu'effectivement, l'ange de la mort allait tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Du coup, ils ont eu un repas spécial, comme Dieu leur avait enseigné. Et l'ange de la mort est passé au-dessus de cette maison et n'a pas tué les premiers-nés. Et donc à travers les siècles, le peuple juif a célébré ce repas. Parce que c'est à ce repas, évidemment, c'est à ce repas que Dieu a pris les éléments que nous connaissons et les a tournés en des éléments de communion, le pain et le vin. Donc Dieu avait dit à Moïse que Israël allait devenir un royaume de prêtres et une nation sainte. Ils allaient être un royaume de prêtres et une nation sainte. Et donc ils ont commencé à faire des rituels de sacrifice. Et on lit dans les Lévitiques que les prêtres étaient vraiment mis à part quelque chose qui se faisait par le sang, le sang d'un animal sacrifié qui les touchait. C'est comme ça qu'ils étaient mis à part et ils étaient devenus saints grâce à ce sang pour le service, le sacerdoce de prêtre. Et encore 14 siècles passent et on voit Jésus qui est crucifié. C'est lui l'agneau de la Pâque qui est sacrifié pour les péchés du monde. Il est l'agneau de la Pâque sacrifié pour nous. Il est mort pour que nos péchés puissent être pardonnés. Et nous, en tant que païens qui croyons à Jésus, on peut dire ça comme ça, nous sommes liés à Jésus par cela. Dans Éphésiens 2, chapitre 11, rappelez-vous que vous, les païens, vous étiez dans la chair, vous étiez séparés de Christ et de la sainteté du peuple d'Israël, des étrangers à l'alliance et à la promesse de Dieu, vous n'aviez pas d'espoir dans le monde, mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez si loin, vous avez été ramenés près de lui par son sang. À travers lui, tous, les juifs et les païens, nous avons tous accès à l'Esprit de Dieu. Vous n'êtes donc plus des étrangers et mais vous êtes des citoyens avec les saints et des membres de la maison de Dieu qui est construit sur la fondation des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même en est la pierre angulaire. C'est sur lui que repose toute la structure qui devient un temple saint devant la face de Dieu. Et en lui, vous êtes également tous dans la maison de Dieu. On a été rassemblés par l'Esprit de Dieu pour former la maison de Dieu, par les promesses qui ont été données à Abraham, par la foi. Dans Romains 11, on lit, si certaines des branches de cette vigne se cassent ou sont cassées, parce que pas mal de Juifs ne croyaient pas en Jésus, donc ils étaient cassés. Et si même une olive était greffée à cette branche et qu'elle pouvait prendre part aux racines de cet olivier, et tous ceux qui ne continuent pas dans leur pas, dans leur voie d'obscurité peuvent rejoindre la lumière et peuvent rejoindre cet arbre de vie qui est cette promesse de Dieu. De devenir des prêtres, un royaume de prêtres, une nation sainte. Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Alors que vous venez à Jésus, la pierre vivante, vous-même, vous êtes des pierres vivantes, et vous êtes élevés comme une maison spirituelle pour votre vie de prêtre, pour offrir un sacrifice spirituel, que votre vie soit accessible, agréable à Dieu à travers Jésus. Tout cela pour qu'on puisse proclamer son excellence. Et dans l'Apocalypse, on lit We see in Revelation chapter 5 that the four living creatures and the 24 elders fell down. Les quatre créatures et les 24 anciens sont jetés face à terre et ont crié à Dieu : Digne es-tu d'ouvrir le parchemin, de prendre le parchemin et d'ouvrir le sceau, parce que grâce à toi, grâce à l'agneau qui a été sacrifié, ton sang a racheté toutes les tribus de toutes les langues, de tous les arrière-plans différents. Et tu as fait d'eux un royaume de prêtres. Et ils vont pouvoir régner sur la terre. Si vous êtes un disciple de Dieu, vous êtes un prêtre. Vous êtes saint. Vous avez été mis à part pour la louange de Dieu et pour proclamer ce qu'il est, qui il est. Ça ne fait aucune différence ce que vous faites pendant la journée. Dieu vous a peut-être mis dans un contexte universitaire et vous passez votre temps à apprendre, à vous inquiéter des examens. La réalité est, vous êtes un prêtre. Et vous êtes là pour proclamer l'excellence de Dieu. Vous êtes là pour le louer. Vous êtes là pour vivre une vie sainte qui est donnée pour lui. La même chose est vraie si vous êtes un salarié, un employé ou un leader d'une entreprise. Vous avez bien sûr une vocation de management, mais vous êtes un prêtre avant tout. Vous êtes intelligemment déguisé en manager. Vous êtes d'abord un prêtre de Dieu. C'est ce que vous êtes. Et en tant que prêtre, vous avez plusieurs rôles. Vous servez et louez Dieu, le Seigneur. Vous réalisez que quand on se rassemble tous en tant que prêtre et qu'on loue Dieu, ça résonne ça résonne au paradis. Les anges rejoignent notre louange quand nous louons. Quand vous vous asseyez dans votre maison et que vous partagez vous prenez une tasse de café et que vous ouvrez votre... C'est pour ça que vous avez été dessiné, créé. Nous proclamons l'excellence de Dieu. Nous le louons et le prions. Et nous proclamons les uns aux autres. Vous savez, par exemple, le témoignage de Jesse, quand elle a dit que c'était vraiment bizarre quand son frère n'a pas pu rester à cause d'un problème de visa en France, qu'il est rentré en Indonésie, et qu'elle a dit, mais finalement, on a compris pourquoi, c'est Dieu qui prenait soin de nous et prenait soin de moi. Vous savez quoi, moi j'ai eu des expériences similaires où la vie est devenue vraiment bizarre, hein, je ne comprenais plus. Et en fait, je me suis rendu compte par après que Dieu était à l'œuvre dans chacune de ces situations et ça m'encourage. Et je comprends mieux le caractère de Dieu. Et quand Jesse a partagé son témoignage, vraiment, je l'ai glorifié. C'est à ça qu'on est appelé. On proclame l'excellence de Dieu. Dès qu'on commence à parler de Dieu, qui il est, de son message d'amour, surtout à ceux qui ne le connaissent pas, là, on devient prêtre. On remplit notre mission à laquelle Dieu nous appelle. Ça, c'est le contexte. C'est ce que Dieu souhaite faire dans cette génération. Il prend le message de la bonne nouvelle et l'emmène aux quatre coins du monde. Et je crois que cette église est un endroit très important de ce que Dieu fait sur la terre de nos jours. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui voient autant de nations se rassembler ensemble pour le louer. Il n'y a pas beaucoup d'églises qui ont des gens qui viennent et ensuite repartent dans toutes les nations du monde, pas comme cette église le fait. Et je crois vraiment que d'une manière, Dieu fait un travail absolument incroyable à travers ce corps de croyants de l'Église. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12, on touche vraiment ce qui est la transition dans l'Écriture. On lit, « Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » En fait, Pierre dit, en fait, il faut que je vous dise que vous êtes des prêtres et une nation sainte. Alors, je voudrais vous dire un petit peu des choses sur lesquelles il faut faire attention. En tant que prêtre, en tant qu'un peuple qui aime et veut servir Dieu, il y a des choses auxquelles il faut être faut être conscient. La première, c'est qu'il y a une guerre. Il y a une guerre qui se passe. Dans le verset 11, il dit, « Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. » Martin Luther a dit que c'était intéressant. Quand une personne devient chrétien, tout change. Tout change. Ils découvrent la grâce de Dieu. Ils découvrent ce que c'est que d'être aimé par lui. La joie qui vient du salut. Mais ils découvrent aussi qu'il y a une partie d'eux qui reste en rébellion contre Dieu. Il y a des passions pécheresses à l'intérieur d'eux. Et qu'à un moment, ils les suivaient, mais maintenant, ils doivent les combattre. Et quelqu'un a demandé à Luther, quand est-ce que ce combat s'arrête ? Il leur a dit, pas sur cette terre, pas dans cette vie, pas ici. C'est un combat, une lutte constante, une bataille qui continue, qui ne s'arrête jamais. Parfois, la bataille est plutôt facile, on ne la remarque pas, et parfois on dirait vraiment une attaque majeure. Mais les passions et la nature pécheresse de nos vies, c'est une lutte constante pour nous. Pourquoi est-ce que c'est important en tant que prêtre de garder ça à l'esprit, de penser à ces passions du coup que l'on combat, qui sont à l'intérieur de nous et qui font la guerre à notre âme? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est important. Parce que ces passions nous entraînent à pécher et à nous rebeller contre Dieu. Et si, en tant que prêtre, nous devons être connectés au Seigneur pour pouvoir partager ses bénédictions avec les autres, à ce moment-là, le péché dans notre vie étouffe cette source de bénédictions spirituelles. Le péché dans vos vies tarit la source de l'Esprit de Dieu. Peut-être que vous faites les mêmes activités chrétiennes, mais s'il y a le péché dans votre vie, ces activités ne porteront pas ou peu de fruits. Et donc, Pierre commence par nous demander aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Est-ce que vous vivez libéré du péché ? Est-ce que vous avez mis le péché de côté ? Ou est-ce que vous jouez un jeu? Est-ce que vous jouez un jeu? Vous êtes censé être des prêtres royaux et saints. Est-ce que vous l'êtes? Après le message, nous allons chanter plusieurs chants de louange. Il y aura une équipe de prière à l'arrière. Et si vous avez besoin d'une prière pour les batailles que vous vivez dans vos vies, ils seront là pour vous. Vous pouvez prier avec eux, ils seront contents de vous aider. Parce que c'est important pour nous, en tant que prêtres, d'être saints et ne pas être étouffés par le péché. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Est-ce que vous êtes saints ? Est-ce que vous permettez au Saint-Esprit de bouger en vous librement ? C'est en partie une activité à l'extérieur de nous, mais c'est aussi à l'intérieur de nos vies, au plus profond de nous. Vous avez probablement entendu cette histoire du petit enfant qui se comportait mal et qui a été, on lui a dit de s'asseoir et de rester tranquille. Et finalement, il s'est assis sur sa chaise et il était peut-être assis sur sa chaise, c'est ce qu'on voyait de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça bouillonnait, il était debout à l'intérieur. Et c'est possible que pour nous, en soit obéissant à Dieu, en tout cas de l'extérieur, mais à l'intérieur, on est en rébellion totale. Et tout le monde sait, et tout le monde le sait, ça se voit. Mais comment est notre vie intérieure ? Est-ce qu'on est libéré du péché ? Ou est-ce qu'on a des choses qu'on doit remettre droite avec Dieu ? C'est une bataille que nous devons tout le temps avoir à l'esprit. Est-ce qu'on marche dans la sainteté en tant que prêtre saint ? Et la deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est le fait que notre manière de vivre, la façon dont nous vivons nos vies, a de l'importance. La manière dont nous vivons notre vie a de l'importance. Le verset 12 nous dit « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Juste par curiosité, combien d'entre vous ont déjà eu des gens qui se moquent de lui parce qu'ils étaient chrétiens ? Que quelqu'un s'est moqué de vous parce que vous êtes chrétien ? Ça arrive. Ça arrive. Les gens peuvent même dire que vous êtes comme un cancer de la société. Ils sont d'accord que vous gardiez votre religion pour vous-même, que vous ne partagiez rien du tout, mais si vous essayez de partager la bonne nouvelle de Dieu avec quelqu'un, les gens commencent à dire des méchancetés sur vous. Et Pierre dit, non, attendez, assurez-vous que la manière dont vous vivez est honorable. De cette manière, même s'ils vous calomnient, comme des faiseurs de mal, ils peuvent regarder à votre vie. Ils peuvent regarder la manière dont vous vivez et se dire que vous vivez de manière honorable et que vous faites ce qui est juste. Voilà, ce qui est juste et honorable. Pierre dit que c'est important parce que les gens vont regarder nos vies et ils seront surpris, vraiment étonnés si nous vivons dans la manière que Dieu veut que nous vivions. C'est normal de détester ses ennemis, mais Jésus a dit « Aimez votre ennemi, bénissez ceux qui vous persécutent, priez pour eux ». C'est vraiment une manière radicale de vivre. Et le monde verra, et certains d'entre vous vont venir à Christ à cause de cela. Et si nous vivons d'une manière déshonorable, pensez à ce qui va se passer. Pensez à ce qui se passe quand on essaye de parler de Jésus. Si on ne vit pas une vie qui est en corrélation avec ce que l'on proclame. Pensez à tous les scandales dans l'Église, dans les Églises. Pensez à tous ces scandales. Est-ce que ça rend les choses plus faciles ou plus dures pour partager la bonne nouvelle? Ça rend les choses bien sûr plus difficiles. Et donc, nous sommes appelés à vivre des vies honorables. Nous allons entrer dans une section de 1 Pierre où Pierre va dire laissez-moi vous dire une bonne chose. Laissez-moi vous dire ce que c'est que d'être honorable. Et il va toucher plusieurs choses, plusieurs aspects de la vie. Et la semaine prochaine, il va parler du gouvernement. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un bon sujet en ce moment? Comment est-ce que vous faites ça? Comment est-ce que vous vivez avec un gouvernement qui est opposé à vous? Je vous rappelle que c'est le gouvernement qui a tué Jésus. C'était les autorités qui, en quelques années, allaient aussi tuer Pierre, quelques années plus tard. Et Pierre va leur dire, voici comment vous vivez de manière honorable, même quand vous êtes en désaccord avec le gouvernement. Vous pouvez vivre honorablement. Ça ne va peut-être pas vous intéresser, mais ensuite il va parler du travail. À quoi ça ressemble? Et ensuite il va parler du mariage. Comment vous vivez avec votre mari, votre épouse? Et il va toucher des choses assez sensibles dans nos vies et demander, est-ce que vous vivez honorablement? Laissez-moi vous montrer comment c'est possible. Et donc je veux vraiment qu'on soit prêt pour cela. Et c'est pour ça qu'on va prendre un moment et dire, Dieu, je veux vivre dans tous les aspects de ma vie une vie honorable, de la manière dont tu veux que je vive, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, dans ma vie spirituelle, dans ma vie de personne qui est sous un gouvernement. Je veux vivre ma vie de la manière que toi tu veux. Et c'est là que ça devient difficile. Je vais peut-être avoir tort. Voici ce que je veux dire. C'est facile pour nous de prier. Seigneur, je veux vivre la manière dont tu veux que je vive, mais on suppose qu'on est déjà en train de le faire. On peut supposer qu'on est déjà en train de le faire et se tromper là-dessus. Je vais continuer à faire ce que je vais faire puisque je pense que c'est ce que tu veux que je fasse. Mais il faut vraiment se demander, est-ce que vraiment je fais ce que Dieu veut que je fasse? Et si je ne suis pas en train de faire ce qu'il veut, est-ce que je suis prêt à changer? Les amis, est-ce que vous êtes prêts à changer la manière dont vous traitez votre femme, par exemple? Je vais vous donner un avant-goût de ce qui vient. Je commence avec les hommes parce que c'est plus sûr. Pierre va appeler nos femmes le bateau faible. Mais les femmes, ne soyez pas en colère. Les hommes, juste pensez à cela. Si nos femmes sont le bateau faible, entre guillemets, qui devrait faire la plupart du boulot? Ça ne devrait pas être le bateau le plus fort? Une fois, j'ai demandé posé cette question et il y a un petit malin qui a dit les femmes, comme ça, elles deviennent plus fortes. Mais non, les hommes, est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, enseigne-moi à être le mari que tu veux que je sois. Et peut-être que je ne suis pas en train de faire ça, mais je veux bien changer. Peut-être que je ne suis pas l'employé modèle que tu veux que je sois. Je ne suis peut-être pas le citoyen que tu veux que je sois, mais je suis prêt à changer. Est-ce que vous allez prier avec moi d'être prêt à faire cela? Priez avec moi que nous, en tant que prêtres, soyons prêts à écouter les instructions de Dieu et changer. Et changer vers ce qu'il veut que nous soyons. Prions une minute. Père Céleste, Seigneur, tu es tellement bon avec nous. Tu ne nous laisses pas seuls. Alléluia, tu ne nous laisses pas seuls. Seigneur, je regarde ma propre vie et je vois des fois où les passions et le péché me dépassent. Quand j'ai oublié qu'il y avait une bataille incessante et que mes passions m'emmenaient à des endroits loin de toi. Seigneur, je pense au... Je pense à la disgrâce qui est venue sur ton nom à cause de tous ces disciples qui ne vivent pas des vies honorables. Je prie que tu puisses nous pardonner tous et nous enseigner à vivre une vie lumineuse et sainte. Même quand les gens autour de nous ne le sont pas dans ce cas-là. Même quand les gens autour de nous se moquent de nous. Apprends-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. L'équipe de louange va nous guider dans quelques chants encore. Vous pouvez rester assis ou vous lever comme vous préférez. À l'arrière, il va y avoir les membres de notre équipe de prière. Et je voudrais vraiment vous inviter, si vous avez besoin de prière, que vous avez des problèmes spirituels, physiques, quel que soit votre problème, sentez-vous libre pendant ce temps d'aller vers l'arrière et de prier avec eux. Ils prieront avec vous. Nous voulons vraiment prier les uns pour les autres. Particulièrement, je voudrais dire que si vous êtes ici, en tant qu'Église internationale, on a beaucoup de gens qui viennent, qui repartent, qui sont en transition, et c'est difficile. C'est fun pendant un petit moment, après c'est dur. Après c'est de nouveau fun, mais si vous êtes dans cette période où c'est dur et que vous avez besoin de prière, ils seront vraiment heureux de faire ça pour vous. On veut être là les uns pour les autres. Amen.